2025, 100 ans après la naissance de Claude Lanzmann, un film revient au point d'origine de Shoah. En replongeant à la fois dans les 220 heures de ses rushs et dans les pages du Lièvre de Patagonie, le livre de mémoire de Lanzmann, Guillaume Rivebeau revient sur la genèse et la fabrication d'un documentaire monstre de 9h30 tourné pendant 12 ans. Guillaume Rivebeau est photographe, réalisateur, il a longuement travaillé à Yada Unum en Ukraine et Biélorussie, documentant les fusillades par balles et photographiant des centaines de témoins. Travail exposé et publié sous le titre « La Shoah par balles ». Comme réalisateur, on lui doit des films comme « Treblinka, je suis le dernier des Juifs » en 2016, « Vie et destin du Livre Noir, la destruction des Juifs du RSS » en 2020, sur l'histoire du Livre Noir et l'enterrement stalinien de la mémoire de la Shoah. Ou encore « Moisson sanglante » en 2022-2023 sur la famine en Ukraine. Son dernier film, « Je n'avais que le néant », Shoah par Lanzmann, prend la forme d'un road movie documentaire, d'une enquête au plus près d'un cinéaste lui-même détective et raconte ses doutes, les ruses, les trouvailles au moment du tournage. Derrière la figure canonisée du grand réalisateur Claude Lanzmann, Guillaume Rivebeau fait apparaître un homme aux prises avec une tâche que le réalisateur lui-même jugeait comme impossible pour donner forme par le cinéma à l'extermination des Juifs d'Europe. Alors bonjour Guillaume Rivebeau, je suis vraiment ravi de parler avec vous à propos de ce film qui vient de sortir en salle, qui est en accès libre sur Arte et dont le DVD sort ces jours-ci. Alors je crois savoir que tout est parti dans votre désir de faire ce film, de votre lecture du Lièvre de Patagonie et en particulier des chapitres où Lanzmann dévoile de l'intérieur la fabrication de Shoah. Alors vraiment, question toute bête, qu'est-ce qui, dans ce texte, a fait basculer votre regard de spectateur de Shoah, je sais que c'est un film avec lequel vous avez beaucoup vécu, que vous connaissez très bien, à celui d'un cinéaste qui a le sentiment qu'un autre film était possible à partir justement de cette matière filmique, de ces rushs, je veux dire, en repartant des images que vous connaissiez si bien, pourquoi ce film de plus ?
En fait, les quatre chapitres du Lièvre de Patagonie m'ont mis dans une position privilégiée de découvrir comment un réalisateur est au travail. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu, parce que Shoah est un monument, un film monument, et de voir comment, en fait, du film monument, je suis redescendu avec ces quatre chapitres à l'histoire d'un film. Comment un réalisateur opiniâtre qui n'a pas même pas l'idée au départ de faire ce film. L'idée n'est pas de lui, c'est ce qu'il dit au départ. Et là, j'ai eu la sensation d'être en coulisses, en fait, ou d'être à ses côtés en lisant ces quatre chapitres, très longs chapitres dans le Lièvre de Patagonie. Mais pour moi, ce n'était juste une position de privilégié, pas du tout une idée de film encore. L'idée du film arrive très simplement lorsque je découvre absolument par hasard, lorsque j'étais en train de préparer « Vie et destin du Livre Noir », où il est question des Einsatzgruppen, en URSS, je fais comme toujours, je suis un homme d'image, des recherches archivistiques, sur le web, et je tape des mots-clés dans un moteur de recherche qui était Einsatzgruppen, URSS, et sur le site de l'Holocaust Museum à Washington. Et là, la première occurrence qui arrive, collection Lanzmann, Einsatzgruppen, Hans Schubert. Je clique dessus, ne sachant pas du tout ce que j'allais voir. Je dis, tiens, Lanzmann, et je pensais même à un homonyme. Et là, je découvre des images en caméra cachée, celles qu'on connaît, qui sont dans Shoah, mais avec un personnage qui n'est pas dans Shoah. Et là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Donc là, très vite, je commence à passer ce rush sous le nom de Hans Schubert, et je me rends compte qu'en fait, c'est Claude Lanzmann, c'est ce qu'on voit dans mon film aujourd'hui, j'utilise ce moment-là, qui interviewe un chef des Einsatzgruppen en Crimée, qui a dirigé la fusillade de Simferopol, qui a fait plus d'une dizaine de milliers de victimes en 1941. Et là, je me dis, mais c'est étrange, il y a d'autres choses. Et là, je me rends compte, en lisant tout simplement sur le site, qu'il y a l'ensemble des rushs non retenus au montage de Shoah. Et à ce moment-là, je pense que c'est une erreur de la part de l'Holocaust Museum, qu'ils ont mis en ligne, publiquement, ce qui normalement devait être dans le réseau. Parce que pour moi, ça ne pouvait pas être public. Donc là, je suis pris d'une frénésie de téléchargement, parce qu'on pouvait même les télécharger. Donc je télécharge les 220 heures sur mon ordinateur, et après, je me pose, j'ai fait « Waouh !» Là, je me sentais vraiment privilégié, je me suis dit « Là, j'ai accès à un truc incroyable. » La légende aurait été belle si j'avais trouvé tous ces rushs au fond d'un local d'archives poussiéreux, mais pas du tout, en fait. Ces archives étaient à disposition du public, et elles le sont encore aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit une idée assez simple, finalement, un texte magnifique qui raconte l'histoire d'un film, et les rushs qui racontent le tournage du film. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment les fils se sont touchés et l'idée, je l'ai eue d'une manière très acérée dès le départ. Je ne savais pas si j'allais pouvoir le faire, mais j'ai été pris tout de suite d'une intuition très très forte. Oui, un film peut exister.
Alors, une idée très très simple, oui, un film peut exister, mais alors, quel film et comment développer l'idée, comment lui donner corps? Parce qu'on peut se dire que 1000 films sont possibles à partir de cette idée. Alors, comment vous procédez? Première question, vous plongez dans les 220 heures de rush. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que de plonger dans 220 heures de rush de Shoah de Lanzmann? Comment on fait, j'allais dire, techniquement et psychiquement?
Tout d'abord, c'est une sensation absolument presque délicieuse d'être dans un positionnement privilégié. Là, de se dire, oh, j'ai accès à tout, je vois, comme ce que j'avais lu dans les chapitres de Shoah, là, on y est, c'est de l'image, on voit tout, le direct, les claps, etc. Et là, je me dis, j'ai vraiment un positionnement privilégié. Évidemment, ça ne suffit pas pour faire un film, ce positionnement, mais il faut se plonger dans les rushs, totalement, parce que c'est 220 heures. Lorsqu'on veut comprendre ce qui fait la matière des rushs, il faut tout regarder, absolument tout. Parce qu'on peut le faire, et le public aujourd'hui peut aussi le faire, aller voir, prendre là et là, grappiller des moments, retrouver des moments. Parce que dans ces 220 heures de rush, il n'y a pas les 9h30 de Shoah. Donc toutes ces images sont inédites. Toutes les images de mon film sont inédites. Donc, pour ne rien rater, je me suis plongé dedans quasiment à corps perdu après avoir écrit une trame scénaristique. Je savais que les images allaient influencer mon écriture, mais je voulais avoir vraiment la trame lanzmannienne et aussi m'inscrire dans sa radicalité. J'ai mis chaque bobine de 11-12 minutes, filmée en 16 mm, qui était numérisée sur le site de l'Holocaust Museum, sur la timeline de ma table de montage. Et j'ai regardé chaque image, chaque seconde, en mettant des marqueurs, dès que je voyais quelque chose, des petites annotations, des codes couleurs, parce que c'est une telle matière, et ça montre à quel point cela a dû être difficile pour Claude Lanzmann quand il a fait son propre film, parce qu'avant il n'y avait pas le numérique. Il fallait avoir une connaissance globale de l'ensemble des rushs, et ça c'est très très difficile. C'est pour ça que c'est un film du temps de l'écrit, tout était noté, et moi, avec ça, j'ai rapidement compris que je pouvais écarter beaucoup de rushs, parce qu'il ne rentrait pas dans l'architecture de mon projet. Comme Lanzmann le dit, il a écarté beaucoup de témoignages, même on lui a reproché de ne pas avoir intégré certaines personnes, mais c'est qu'un film, comme il disait, et je partage totalement cet avis, le film a une architecture. C'est le film qui décide. On croit que c'est le réalisateur, mais c'est le film. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, ou les plus mauvaises, si, des fois ça ne marche pas à l'écran. Ça ne marche pas parce que ce que vous avez fait la veille va influencer ce que vous ferez le lendemain et inversement, et c'est une lente et longue alchimie. Et moi, en fait, je me suis rendu compte.
Pour illustrer ce que vous venez de dire, je fais une parenthèse. Ouais. Il y a dans votre film une séquence absolument prodigieuse avec Antek, qu'on ne voit pas dans le choix. J'avais presque l'idée de l'avoir vue, cette séquence, la beauté du visage d'Antek, la somptuosité de cette séquence dans votre film. Et évidemment, on se dit, mais pourquoi il ne l'utilise pas? Pourquoi il ne l'utilise pas? Parce que probablement, malgré la beauté de cette séquence, malgré sa puissance intrinsèque, ça ne rentre pas dans cette architecture.
C'est ça, et n'oubliez pas
c'était une parenthèse pour vraiment illustrer votre propos.
Elle est très justifiée parce que le sujet de Shoah, c'est la mort, la radicalité de la mort, c'est les premiers mots du film. Moi, ce n'est pas mon propos. Moi, c'est la vie d'un homme au travail, un homme gorgé de vie, c'est un film sur le cinéma. Et cette séquence avec Antel, qui est évidemment une de celles qui m'a absolument décidé que je pouvais faire ce film, ou fait comprendre que ce film était possible, Claude Lanzmann, à ce moment-là, c'était une image d'une intimité rare. Et Claude Lanzmann, même si on le voit à l'écran dans Shoah ou off avec sa voix, lui-même n'a pas d'importance, si ce n'est qu'en tant que réalisateur. On le voit dans Shoah, quand il arrive à Grabow et qu'il parle avec les gens qui habitent des anciennes maisons juives, parce que sa présence influe sur l'interview ou sur le scénario. Ou on le voit à Sobibor avec le garde barrière, et il explique, vous vous souvenez de cette séquence fameuse, il dit « là je suis dans le camp, là je ne suis pas dans le camp », il est pris d'une frénésie topographique quasiment. Et moi, cette séquence avec Antek, il y a une grande différence dans mon film avec Shoah, même si ça fait partie du même tournage, c'est que Claude Lanzmann n'avait pas l'autorisation de faire parler Antek. Antek est le commandant second de la révolte du ghetto de Varsovie, qui est un héros, au sens littéral du terme. C'est le héros de Claude Lanzmann, d'ailleurs. Et il n'avait pas le droit de le faire parler pour une bonne raison, et c'est ce que j'explique dans mon film. Antek était un ivrogne. Parce que, et c'est là la beauté de ce personnage, la beauté quasiment tragique, biblique dans le texte, c'est qu'il a autour de lui des centaines de milliers de morts, des millions de morts, et il porte tout ça.
Ce n'est pas... Il le dit comme ça, d'ailleurs.
Il le dit comme ça, et il dit tout autour de moi.
Je suis au sommet de millions de morts.
Voilà, et il a dit quelque chose de très beau. Il dit, j'ai commencé à boire après la guerre, lorsque je suis monté sur cette tombe immense. Antec, et moi dans mon film, il le dit tout ça, on le voit le dire. Alors que dans Shoah, comme il n'avait pas l'autorisation, Antec ne parle pas. Sa voix est off. Et c'est vraiment la différence. Et c'est pour ça qu'on croit voir des images, parfois, dans mon film. Mais en fait, réellement, c'est ça, je pense aussi, l'originalité de mon film, c'est que ce ne sont pas les images de Shoah. Ce sont les images non retenues au montage de Shoah. Donc, la proximité est évidente.
Non, on pourrait dire cette chose, c'est qu'il y a les 220 heures de Rush, il y a les 9h30 du film Shoah, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres films que Claude Lanzmann a fait à partir de ces 220 heures de Roche. Et pour rappel, Un vivant qui passe, Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, Le rapport Karski, Le dernier des injustes, Les quatre sœurs. Ces 220 heures, en vérité, n'ont pas fait Shoah 9h30, mais ont fait une constellation de films qui durent près de 23 heures. Hein. Il faut absolument avoir ça en tête. Et quand on découvre votre film, on a le sentiment qu'il appartient d'une certaine manière à cette constellation. C'est évidemment votre film, c'est le choix d'un cinéaste qui arrive après avec son admiration pour un cinéaste qui a fait le boulot. Mais en même temps, c'est les images de Lanzmann, c'est la voix de Lanzmann qu'on entend. Enfin, pas sa voix physique, mais c'est son texte. Et donc, ce film a un statut étrange. On voit des morceaux de Rush, de séquences dont on a aperçu d'autres passages dans Shoah ou dans d'autres films de Lanzmann. Donc, il y a un jeu d'écho, de variation, de travail avec, qui fait que, moi, j'aurais tendance à dire, ce film appartient à la constellation des films lanzmanniens. C'est un film de Lanzmann, mais ce n'est pas fait par Lanzmann. Il y a quelque chose... Enfin, c'est troublant le statut... comme pour le dire de manière pédante par le mot, doctorialité du film. Qui est l'auteur de ce film ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a une chose vraiment étrange.
Alors, je vais être très clair avec vous. Ce film, c'est 100% un film de Guillaume Ribault. Non pas par le matériau utilisé ou par le texte utilisé, mais faire un film, c'est des choix de réalisation du début à la fin, de l'idée jusqu'à le mixage en studio du son. Tout est là. Oui, j'utilise le matériau... magnifique des rushs non utilisés. Oui, j'utilise
le texte.
Les rushs ne sont pas, comment dire, sont un matériau brut d'une qualité incroyable, mais c'est un matériau brut. Ils sont une archive, en fait. C'est comme ça qu'on doit les appeler. Ils sont déposés dans un mémorial, etc. Mais quand je dis c'est un film 100% de Guillaume Ribault, je comprends tout à fait qu'on puisse me dire « Oui, mais tu utilises les images de Lanzmann. » Oui, mais c'est ça. On fait ça tout le temps dans le cinéma et dans le documentaire, d'utiliser des images d'archives et de les prendre. Mais à la fin, ça crée une œuvre indépendante et qui est, je le reconnais, c'est peut-être un curieux objet cinématographique qui passe de l'un à l'autre. Moi, c'est un vrai hommage à Claude Lanzmann. Vraiment, le plus dur pour moi, c'était de trouver mon positionnement pour faire ce film. Évidemment, utiliser les images de Lanzmann et de Shoah, ce n'est pas neutre, en fait. Mais à partir du moment où j'ai compris ce que je voulais dire et comment le raconter, là, je me suis approprié totalement les images et les mots de Claude Lanzmann pour les faire miens. Pour ce film exclusivement, je n'ai aucune paternité sur la réalisation, la création des images et les mots de Claude Lanzmann, mais cette idée-là est essentiellement de moi, 100%. J'ai décidé de lier les deux, et en liant les deux, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui accompagne Shoah. C'est presque une porte d'entrée vers Shoah, mon film.
Oui. Donc il s'agit de faire parler des archives, on pourrait dire, quelque chose comme ça.
Kennen Sie Herr Laps?
Ja, das ist unser Nachbar.
Ja. Er hat ermordet 200.000 Juden.
La réalisation de Shoah a été une longue et difficile bataille. Je voulais filmer, mais je n'avais que le néant. Je suis très tôt que je ne ferai pas ce film sans que les tueurs y figurent aussi.
Aber bitte nennen Sie mir nicht meinen Namen.
Nein, nein.
Shoah est une course contre la mort. Bientôt l'histoire vivante sera devenue une histoire morte.
It's very difficult.
Mes découvertes me faisaient rebondir d'un continent à l'autre. J'avais le sentiment de conduire une traque policière. Il fallait apprendre à tromper les trompeurs.
Guten Tag, Herr Schubert.
Ich kenne Ihr Institut nicht.
Ils ont périmité à mieux, moi.
Maho Yapona Chiru, il prena documentari.
Revenons au Roche, revenons à ce moment où vous êtes face à ce continent d'images qu'il faut classer, choisir, etc. Qu'est-ce que vous découvrez, à quoi vous ne vous attendiez pas, et comment, ce faisant, vous trouvez le fil à suivre, vous trouvez la structure narrative, vous avez parlé d'un projet qui était relativement défini dans votre tête, mais ce n'est pas la même chose d'avoir un projet que de construire le récit et la structure narrative, l'histoire, en fait, qu'on va raconter. Comment on fait ? Comment vous avez fait ?
J'ai aussi la chance, je crois, d'avoir un passé sur cette thématique de la Shoah. Donc, je ne découvrais rien. Je découvrais beaucoup de choses qui étaient dans les rushs, c'est-à-dire du tournage. Mais ce que disaient les témoins, je l'avais déjà entendu. Le cadre historique, je le connaissais. Je connaissais Claude Lanzmann, que je n'ai jamais rencontré, mais je connaissais Claude Lanzmann. Néanmoins, j'ai découvert un Claude Lanzmann que je ne connaissais pas dans ces rushs. Mais en fait, l'idée du film s'est totalement inscrite en moi lorsque j'ai compris qu'il fallait que j'utilise les rushs pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des archives qui racontent l'histoire du tournage. Et à partir de ce moment-là, et c'est là où le film, pour moi, est devenu très très clair, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il y ait d'images additionnelles au travail de Claude Lanzmann. Ça, c'était la décision la plus difficile à prendre parce que ça ne m'autorisait aucune possibilité de contextualiser par d'autres éléments. Un exemple. Claude Lanzmann filme les anciens nazis avec une caméra qui s'appelle la Paluche. Paluche parce qu'elle se tient dans la main, c'est une caméra de forme cylindrique, oblongue, et elle vient d'être inventée par le créateur des caméras à tonnes, Boviala, et je me suis dit, ça serait bien de les montrer, ça c'est un réflexe documentaire. Ça serait bien de la montrer. J'ai trouvé une archive magnifique où il explique comment on fait, etc. Mais à partir de ce moment-là, je l'avais déjà éprouvé sur mon précédent film, Moisson sanglante, où j'utilise quasiment que des images de films de fiction soviétique, parce qu'il n'y a pas d'image du génocide ukrainien en 1933 par la famine et Staline. Il n'y a que 26 images. Donc faire un film de 75 minutes sans images, c'est assez compliqué. Mais je me suis rendu compte, quand je faisais Moisson sanglante, que dès qu'on utilise le cinéma d'avant-garde soviétique des années 20-30 avec les grands maîtres qu'on connaît tous, Eisenstein, Devchenko, Vertov, etc., et que derrière on met une archive d'actualité filmée, toute la construction plastique et le contrat de réel qu'on passe avec le spectateur s'effondre totalement à cause de la faible qualité de l'image d'actualité filmée. Ben, avec Shoah, c'était ça. Je me suis dit, donc, il faut que je raconte le tournage, mais je n'ai que les rushs. Parce que si je mets des images supplémentaires pour expliquer ce qu'est une paluche, pourquoi, etc., le film perdait totalement de sa qualité majeure. Je ne parle pas de mon film, mais je parle vraiment de la qualité des images filmées par William Munchansky et les deux autres chefs opérateurs. Et là, en fait, il y avait cette perte de qualité esthétique et plastique, parce que là, dans 16 mm, il y a du grain, c'est très beau, et on devenait tout de suite explicatif, pédagogique, inutilement, parce que les images nous disent beaucoup, et Lanzmann, avec ses mots, dit beaucoup. Donc, c'est comme ça que j'ai travaillé, des bornes chronologiques. Quand j'ai trouvé ces deux bornes chronologiques du scénario, qui sont simples, hein, 1973, l'idée, 1976, le premier tournage. C'est le premier tournage, pour vous donner ça, je l'ai découvert dans les rushs, c'est des rushs en noir et blanc. C'est un politique israélien qui filmait, j'ai perdu son nom, parce que je pense que Lanzmann, c'est une demande du ministère des Affaires étrangères israélien, ce choix. Il le dit au début, l'idée n'est pas de moi. Ça, c'est assez incroyable. Donc, il existe cette première interview.
Les premières images sont en Israël, du film, d'ailleurs.
Exactement, exactement. Donc, la première interview, c'est ça, c'est en 73, en noir et blanc. C'est pas l'équipe du film. Il a fait ça, je pense, pour dire aux gars, je vous filme, vous serez dans le film, mais voilà. Vraiment, elles sont en noir et blanc, d'ailleurs, ces images. Donc, et derrière, tout de suite, en 1976, le début, c'est Franz Zuremel. C'est la première interview, caméra cachée. Et la dernière bande chronologique, c'est Antec. c'est quasiment la dernière interview. Je ne sais pas s'il n'y en a pas eu une après, quelques retakes avec une autre personne en Israël, mais c'est la dernière session de tournage en 1978. Et après, Claude Lanzmann retourne faire des images, peut-on dire, de paysages, etc., pour nourrir, évidemment, les 9h30 de son film. Donc, à partir du moment où je me suis dit, je raconte le tournage, il n'y a pas d'image additionnelle, et c'est début de l'idée et fin du tournage, là, je me suis dit, OK, j'ai mon film. C'est à ce moment-là.
La Paluche était une petite caméra cylindrique révolutionnaire qui pouvait se tenir à la main sans avoir l'œil dans le viseur. Elle n'enregistrait pas les images, mais les envoyait vers un minibus garé à proximité. Cette petite merveille allait modifier radicalement mes tournages en Allemagne.
Nein, mein Herz zurzeit habe ich keine Schmerzen. Wenn ich Schmerzen habe, ja. Dann werde ich es Ihnen sagen.
Ja, ja, ja.
Dann müssen wir unterbrechen.
Ja, natürlich.
Franz Rommel avait seulement accepté que son témoignage oral soit enregistré. À Treblinka, Rommel était le chef du commando chargé de récupérer l'argent et les bijoux cachés dans les vêtements des victimes. Pour le piéger, j'avais dissimulé la Paluche dans un sac qui contenait un appareil de prise de son professionnel. William Lubchansky, mon chef opérateur, passerait pour l'ingénieur du son.
Sie sind fertig, Sie sind bereit.
Ja,
wir können
beginnen.
Wir können beginnen. Gut. Bon, on va faire ça. Alors, wir werden mit Treblinka anfangen.
Ja, bitteschön. Stadi hat uns durch das Lager geführt, also hinterher. Und als wir hinaufkamen, gingen gerade die Türen auf von der Gaskammer und die Menschen fielen heraus wie Kartoffeln.
Ja, wie Kartoffeln.
Ja.
Merde, was geht los? Télécrochage.
Und
moi, je continue à voir le son impeccable.
Es war eine schreckliche Operation.
Ja, die Leute wurden, man kann sagen, der Menschenwürde geraubt. Man nahm ihnen noch das Haupthaar weg. Also eine totale Erniedrigung.
Bon, ja, es gibt eine Friseur in New York.
Der Bomber, ja, das kann schon sein. Kann schon sein. An den Namen kann ich mich erinnern. Okay?
Ja.
An den Namen, ja, Bomber. Und da können Sie viel ergänzen, aber ich sage Ihnen jetzt.
Ja, Sie sagen.
Viel, gell?
Ja.
Es war.
Attends, ça marche, ton truc? Ouais, ouais. Tu devrais un peu, parce qu'il te regarde beaucoup, tu devrais un peu faire. Non, ça va. Ça va, tu entends bien?
Oui, j'entends très bien.
Tu entends bien. Bon.
Attends, laisse un peu de temps, je vais changer de.
De bande?
De capsule,
ouais. Oui. Tu as un gros plan, là?
Non, mais. C'est bon, mets mon casque. Hein.
Oui. Et vous, c'est des bon, on va arrêter maintenant, on va aller.
Ouais. Raconter le tournage, c'est raconter plus que le tournage, si je puis dire. C'est raconter comment se met en place une méthode. Et c'est raconter aussi l'itinéraire spirituel du cinéaste qui part de « qu'est-ce que je dois faire ? J'ai une idée vague ». Il dit quelque chose à un moment donné que vous citez, il dit « au début, je ne savais rien, je savais un résultat, 6 millions ».
Un simple chiffre.
Un simple chiffre. Et puis évidemment, à la fin, il sait. Enfin, c'est pas la même chose d'avoir une information que de constituer un savoir. Donc, il s'agit de raconter la mise en place d'une méthode et la transformation d'un homme qui apprend progressivement beaucoup plus que un simple chiffre.
Oui, et c'est pour ça que mon film n'est pas un making-of, parce qu'un making-of, on raconte par l'extérieur avec des soit des caméras additionnelles ou des photographies, l'histoire du tournage. Moi, je raconte l'histoire du tournage et tout ce que vous venez d'expliquer est tout à fait juste. C'est que Claude Lanzmann, au début, il dit « l'idée n'est pas de moi, je ne savais rien à part un simple chiffre, 6 millions, des nôtres avaient été exterminés ». Et à partir de ce moment-là, il commence à étudier pendant 2 ou 3 ans, à lire beaucoup, à rencontrer. Puis il y a quelques rencontres qui font que là, ça y est, il comprend. Il rencontre Raoul Hilberg, et là, il se dit, OK, je vois la rigueur intellectuelle, je vois la rigueur historique, et lui-même devient d'une rigueur universitaire excellente. C'est pour ça que Shoah a un tel, et à ce tel niveau aussi, parce que c'est un pur objet de cinéma, mais c'est aussi un objet historique absolument incroyable, et c'est aussi un intervieweur hors pair. Ça, on le découvre tout au long, on le sent bien dans Shoah, on le voit bien, mais Lanzmann commence comme ça, il ne sait rien, et tous ses doutes, d'abord, il passe par le savoir. Lorsqu'il a acquis assez de savoir, il sait « maintenant, je peux aller interviewer les gens ». Et à partir de ce moment-là, oui, le film est fait d'épiphanies successives où il comprend que d'abord, c'est la mort. Ensuite, qu'il ne pourra pas avoir de témoins qui racontent les rafles, les arrestations. Non, c'est la mort, c'est le Sonderkommando. C'est là où il sait que c'est ces gens qui, au plus proche de l'extermination avec les nazis, peuvent raconter ce qui est arrivé. Abraham Bombard, Richard Glazer, Philippe Müller. Et là, tout change. Et après tout ça, il avance, et il comprend que son film va pouvoir se faire aussi. Ça, c'est une épiphanie assez incroyable pour lui. Quand il arrive en Pologne, il ne voulait pas aller en Pologne parce que pour lui, qui était pourtant le cœur de l'extermination, comme il dit. Mais là, il se dit, je me suis donné des coups de pied dans le ventre pour aller en Pologne. Et là, il découvre qu'en fait, tout est là. La mémoire est là. Les voisins sont là. Les Polonais sont
ce plan sur la pancarte Treblinka, oui. C'est le moment. Enfin, pour lui, c'est épiphanique.
Oui, c'est ça, totalement épiphanique parce que j'ai vécu ça moi aussi quand je suis allé pour la première fois à Treblinka. Claude Lanzmann dit dans le film d'une manière très belle, je trouve, j'étais une bombe prête à exploser, mais il manquait le détonateur.
J'allais vous poser une question sur cette phrase, savoir comment vous la comprenez. Elle est complexe, cette phrase.
Elle est complexe, mais en fait, je peux l'expliquer. Par mon ressenti, et j'ai bien compris, je crois, ce que voulait dire Claude Lanzmann, c'est qu'en fait, il a compris que la Shoah n'était pas qu'un événement hors temps, qui était quelque chose qui était du passé. C'est que là, il est arrivé dans le réel et dans le présent. En voyant un simple panneau de signalisation routière avec le nom du village Treblinka, là, pour lui, tout a explosé, tout devenait réel au sens physique. Évidemment que l'histoire est réelle, ce n'était pas du tout son propos de penser que tout ça n'était pas vrai. Mais là, il était dans le concret, dans les voisins, ceux qui travaillaient au champ et qui voyaient le centre de mise à mort juste à côté. Il apprenait des choses et ça, il s'était refusé. Ce moment de la pancarte, et il dit vraiment, un village nommé Treblinka existait, osait exister. Et j'ai ressenti ça moi aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes panneaux, ils sont verts en écriture blanche en Pologne. Mais quand vous arrivez dans le minuscule village de Treblinka et que vous voyez ce panneau, il y a quelque chose qui résonne de l'histoire et du crime. Il y a quelque chose de très fort et on est sur quelque chose de banal, un panneau routier. Et ça, pour moi, c'était très fort. Je tenais à ce que cette image, et d'ailleurs, il y a un plan magnifique où il y a un long subjectif en voiture où on le voit mettre en scène son arrivée et le chef opérateur filme l'arrivée de ce petit panneau à travers la vitre.
Autant j'étais resté insensible au mémorial du camp, autant ce simple panneau me bouleversa. Treblinka existait. Un village nommé Treblinka existait, osait exister. Quand je suis arrivé ici, chargé de tout le savoir accumulé, j'étais comme une bombe, prête à exploser. Mais il manquait le détonateur. Treblinka fut ce détonateur.
On the line over there where we stayed, there was a small sign which said Treblinka. And that was the first time in my life I heard about that name Treblinka. On the other side of the tracks, I saw about 18, 20, maybe more wagons going away. And after about an hour or so, I saw the wagons coming back, but without the people.
Alors, vous dites que votre film n'est pas un making-of. C'est vrai que ce n'est pas un making-of, mais il y a quand même des effets qui renvoient au making-of, c'est-à-dire à la fabrication extrêmement concrète. Et je pense à plusieurs choses. Je pense notamment à tout ce qui relève d'ailleurs par ailleurs du portrait de Lanzmann, mais presque au sens, alors là, photographique du terme. Son visage, son corps, son attitude, sa manière d'être, indépendamment de ce qu'il dit, est très étonnante. Il y a quelque chose à en dire, et vous le soulignez souvent dans le film. Il y a des plans sur des scènes vides. On le voit installer un micro, on le voit parler avec ses techniciens, on le voit même débattre. On sent qu'il est parfois en conflit avec son équipe. Il y a ce moment très intéressant où William Lubchansky lui dit « mais j'ai envie de lui casser la gueule à Suchomel » et où Lanzmann explique qu'il faut rester calme, presque rigolard. Il sourit beaucoup. Il a une forme d'ironie. Il y a c'est très étrange, la dialectique entre l'extrême gravité, presque des phrases d'une déréliction folle, et en même temps cette attitude extrêmement presque souriante parfois, mm-hmm, avec ses interlocuteurs ou les membres de son équipe qui ne sont pas forcément d'accord avec cette manière. Moi, ça m'a surpris.
Oui,
ça.
Et c'est très important parce que là, cela dit beaucoup de la manière de faire advenir la vérité par Claude Lanzmann. L'exemple que vous citez, William Lubchansky, son père est mort gazé à Auschwitz. Et il filme un nazi de Treblinka qui raconte avec bonhomie ses souvenirs, etc., le fonctionnement du camp. Et Claude Lanzmann avait très vite compris qu'il fallait apprendre à tromper les trompeurs.
Et il fait copain-copain avec lui.
Oui, parce que sinon, vous rentrez en conflit. Comment faire advenir la vérité d'un salopard, pardonnez-moi pour le terme, si vous êtes en opposition totale avec lui? Non, il l'a mis en confiance. Il le raconte même dans le livre de Patagonie. Je me suis mis en position d'élève et vous êtes le professeur. Il lui a tendu une canne à pêche pour qu'il puisse montrer sur un plan, etc., le fonctionnement du camp de Treblinka. Et William Lubchansky, le soir, ils ont failli en venir aux mains, Lanzmann et Lubchansky, ne supportaient absolument pas ça. Pour lui, c'était trop. Et l'attitude bonhomme, presque, de Claude Lanzmann, qui faisait, et Claude Lanzmann le dit, il aurait voulu le tuer, mais moi, je voulais le tuer avec la caméra.
Alors, j'allais aussi vous poser une question. Qu'est-ce que veut dire cette phrase?
Cette phrase, elle veut dire que si on le tue, on n'a pas la vérité, et c'est la caméra qui va tuer ce qu'a été le nazi, parce que la vérité a été montrée. C'est mon interprétation. C'est à quoi bon ? C'est comme un jugement, en fait. On dit, la vengeance, qu'est-ce que c'est ? On s'est vengé, mais il n'y a pas eu de jugement. Des victimes, on ne répare pas. Mais lorsque Zurmel raconte le fonctionnement de Treblinka avec une... Vraiment, c'est dégueulasse. Vraiment, la manière de raconter tout ça est absolument dégueulasse.
Oui, la vérité de son abjection pour l'éternité sur...
Exactement.
Sur une...
Voilà. Et il est tué sous cette forme-là. Parce que Zurmel est mort d'ailleurs très peu de temps après l'interview. Et je pense qu'il a fixé pour longtemps ce qu'a été Zurmel. Sans le tuer, il a tué ce qu'il a été.
J'ai eu une dispute violente avec le chef opérateur William Lubchansky, dont le père avait été gazé à Auschwitz. Il ne comprenait pas que ma froideur et mon calme étaient partie intégrante du dispositif de tromperie. Lui, il l'aurait tué. Moi, je ne voulais pas le tuer comme ça. Je voulais le tuer avec la caméra.
Er soll stoppen, wenn er kann. Ich habe Schmerzen.
Non, gut. Non, ça va, tu continues.
Fais semblant d'arrêter,
tu continues. Sie haben Schmerzen. Herzschmerzen.
Angina pectoris.
Angina pectoris.
Un moment. 5 Minuten.
Ja, ja. Aber ich werde nicht rauchen für Sie. Aber das ist...
C'est l'émotion. Das ist, weil Sie... warum haben Sie Schmerzen?
Weil Sie sich
aufregen wegen der Geschichte. Wie ist das?
Wenn ich da erinnert werde, bitte.
Il y a une autre phrase sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez. Et là, je m'adresse à celui qui a eu l'expérience d'énormément voyager dans ces régions, de photographier des dizaines, des centaines de témoins ou de rescapés. J'ai voulu, dit Lanzmann, filmer les yeux qui ont vu. Alors, évidemment, je suis sûr que cette phrase a été pour vous... trouver en vous un écho très particulier.
Évidemment. Vous l'avez bien noté. J'étais photographe et Lanzmann dit exactement dans le film, Shoah montre des yeux qui ont vu. Moi, ces yeux qui ont vu, je les ai photographiés, c'est pas des centaines, c'est plus de 1000 témoins que j'ai photographiés. Et j'ai toujours eu dans mon approche cette idée, cette envie de photographier leurs yeux au téléobjectif, dans un plan très serré, pas du Sergio Leone, mais pas loin, très très serré, avec une netteté minimale, la netteté étant faite, et c'est très difficile à faire dans des conditions difficiles de lumière, juste sur les yeux. Parce que ces yeux-là, en image, voilà ce qui ont vu. Et ces gens, ces vieilles personnes qui nous parlaient en Ukraine lorsqu'on allait enquêter dans les villages, étaient des enfants à l'époque. Et les yeux disaient le souvenir de leur enfance. Pour moi, c'était très important. Et effectivement, Shoah montre des yeux qui ont vu. Et moi, j'ai vu ses yeux. Et je me rappelle, en 2008 ou 2009, le journal Le Monde avait fait un portrait en pleine page sur moi. Ils avaient titré, je détestais ce titre à l'époque, vraiment, « Les yeux sur la Shoah ». J'avais pas du tout aimé ce titre. Ça me semblait... Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ce titre était assez bon, finalement. Parce que j'avais, moi aussi, posé mes yeux sur cet événement, à travers les yeux des autres. Et une journaliste qui m'a interviewé dernièrement a titré son article « Guillaume Ribaud dans les yeux de Claude Lanzmann ». Et donc, finalement, effectivement, les yeux qui ont vu, c'est quelque chose qui traverse ma vie depuis 27 ans sur ce sujet-là.
Je voudrais vous poser en fait une dernière question qui est encore une manière de vous faire réagir à une phrase qui est la phrase avec laquelle se conclut votre film, une phrase de Lanzmann. On l'a dit, hein, le film, c'est le portrait d'un homme qui fabrique un film, qui trouve sa méthode, c'est le portrait d'un itinéraire spirituel d'un homme qui veut faire un film avec une idée vague, mais qui se construit cette idée progressivement, qui finit par la formuler d'une manière relativement précise. Et ça se finit par ces mots assez étonnants. Et vous les montez d'ailleurs, c'est assez habile, parce qu'il y a l'entretien avec Antec, et ensuite il y a les mots de Lanzmann, et comme s'ils se répondaient l'un à l'autre, parce qu'Antec dit ça. Est-ce que vous pouvez encore sauver quelque chose en faisant ce film? J'ai derrière moi des millions de victimes. Ça, c'est les derniers mots de Antec qui s'adresse à Lanzmann en lui disant, mais qu'est-ce que tu veux foutre? Je veux dire, il sert à quoi ton film? Qu'est-ce qu'il veut sauver? Et... à distance, Lanzmann lui répond dans un entretien ou dans le livre de Patagonie, il dit « J'ai toujours été hanté par tous ces gens, mort seul, abandonné de tous. » Et là vient la chose, à mon avis, cruciale et extrêmement complexe à comprendre comme démarche. « J'ai voulu faire ce film pour les ressusciter, mais les tuer une deuxième fois. » Et là, il y a encore plus crucial encore, pour que nous mourions avec eux, pour qu'ils ne meurent pas seuls. Qu'est-ce que ça veut dire, pour que nous mourions avec eux?
Claude Lanzmann était hanté par cette mort entre quatre murs, dans le noir, dans un lieu où les gens ne savaient même pas où ils étaient. Et pour lui, c'était au-delà de la mort, il y avait cette mort solitaire, dans l'inconnu absolu, et en plus, après, avec la disparition totale des corps. Donc c'est vraiment, il était hanté vraiment par ça. Et ne pas mourir avec eux, c'est aussi essayer de trouver une réponse, parce qu'effectivement, quand Antec lui dit « Que pouvez-vous sauver en faisant ce film ?», Lanzmann sait très bien qu'ils ne vont pas, il ne va pas les ressusciter physiquement, qu'il ne va pas réellement les ressusciter. Mais il y a aussi faire perdurer leur mémoire, dire leur nom à travers ce film, et ce film est posé là. D'ailleurs, le film est à la mémoire du monde, au registre mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2023, donc ça veut bien dire quelque chose, et c'est peut-être ça, de les ressusciter, c'est de prendre la mémoire des victimes et de dire, voilà, par le cinéma, moi, j'arrive à ne pas les laisser mourir seuls. Mais, si vous l'avez vu dans mon film, je décide de ne pas terminer sur ces mots réellement, en fait. Parce que pour moi, ces mots sont presque... réconfortants, sont presque trop beaux. C'est pour ça qu'à la fin, je remets le même train qui termine Shoah, parce que ces gens sont morts quand même. Il a tenté de les ressusciter et on pense à eux. C'est leur mémoire en fait. Il y a quelque chose, le mot ressusciter, moi je ne l'aurais personnellement pas employé, mais cette idée de mémoire est très importante. Vous savez, la première exposition photo que j'ai faite au début des années 2000 sur Auschwitz s'appelait « Si nous cessions d'y penser », c'est un extrait de l'imprescriptif de Yankelevitch, et la suite de la phrase c'est « Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer, les morts dépendent entièrement de notre fidélité ». Et je pense qu'il y a quelque chose de la fidélité dans cette phrase, et de marquer ça dans le temps, et Et puis c'est de mettre un peu de baume sur notre cœur, sur cette chose absolument impensable.
Mais vous insistez sur le mot ressusciter, et moi je voudrais vous faire porter l'accent sur ce qui me trouble le plus dans la phrase, c'est les faire mourir à nouveau, et nous mourrons avec eux. Comme si l'expérience du film, parce que de même qu'il sait qu'ils ne vont pas être ressuscités, évidemment le spectateur de Shoah ne meurt pas en voyant Shoah. Donc qu'est-ce que ça métaphorise au fond ? J'ai ma petite idée, mais j'aimerais savoir ce que vous entendez par cette expérience qui veut faire vivre au spectateur que nous faisions l'expérience de ce que là, dans cette phrase, nous mourrons un peu. J'ai voulu faire ce film pour les ressusciter, mais les tuer une deuxième fois, pour que nous mourions avec eux, pour qu'ils ne meurent pas seuls.
C'est une forme d'expérience, évidemment, métaphorique et cinématographique. J'ai du mal à me mettre dans l'esprit totalement de Claude Lanzmann parce que je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais discuté de ça. Moi, pour moi, c'est j'engage tout le monde à regarder Shoah en salle en une fois. Là, on comprend mieux cette phrase. C'est 9h30. 9h30 avec une pause entre deux époques. Et on ressent quelque chose de physique. Dans Shoah, il y a quelque chose d'absolument physique qui va au-delà de la mémoire, de l'histoire, du cinéma, etc. On se confronte à ça. On ne pleure pas en regardant Shoah. C'est terrible, hein. C'est terrible ce film. Il nous convoque, il nous emmène loin. Et il serait trop indélicat de dire qu'on comprend mieux ou je ne sais quoi, mais on se rapproche de quelque chose. Je crois que Shoah nous rapproche d'un élément central qui est cette mort dans les chambres à gaz.
Je vous remercie beaucoup, Guillaume Ribaud. J'invite vraiment à ce qu'on découvre votre film, qu'on découvre la constellation dans laquelle ça s'inscrit, qu'on la revoie, à la fois Shoah et les autres films de Lanzmann que j'ai cités, fait à partir de ces 220 heures de rush. Je rappelle que votre film est disponible en replay sur Arte, donc il est très facilement visible et qu'il en existe un DVD, et que dans l'édition de la nouvelle édition DVD de Blu-ray de Shoah, il est en annexe dans cette édition.
Il est également en salle avec MK2.
Absolument. Je vous remercie infiniment, Guillaume Ribaud.
Merci beaucoup.
J'ai toujours été hanté par tous ces gens, morts seuls, abandonnés de tous. J'ai voulu faire ce film pour les ressusciter et les tuer une deuxième fois. Que nous mourions avec eux, pour qu'ils ne meurent pas seuls.